I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial du Rendez-vous Jeu. On couvre généralement l'actu dans cette émission, on vous parle de tout ce qui s'est passé dans la semaine précédente, mais aujourd'hui, c'est différent, on a un épisode super spécial, exceptionnel, et comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler d'IA, et oui, l'IA c'est à la mode en ce moment, mais on n'en entend pas beaucoup parler quand on parle du jeu vidéo, et comme on parle de jeu vidéo, je me suis dit, ça serait cool d'en parler, et ce qui était encore plus cool, c'est que pendant que j'y pensais, avec une sorte de transmission de pensée, il y a Alexis qui m'a envoyé un mail, et qui m'a dit, Patrick, ça serait cool de parler d'IA. Et il se trouve que moi, je fais de l'IA. Et donc, je me suis dit, mais ça serait super de parler d'IA. Et donc, on va parler d'IA avec Alexis Roland, mais aussi avec Yves Jacquier. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui tous les deux. Est-ce que, pour commencer, alors bonjour d'abord, enchanté, comment allez-vous?
Très bien, salut Patrick.
Ça va être un exercice compliqué, hein, parce qu'on a quelqu'un qui est en Chine d'une part, quelqu'un qui est au Canada d'autre part, et moi qui suis au milieu, ou enfin on est tous au milieu des deux autres, en Finlande. Donc courage, on va y arriver. Alexis, bonjour, bienvenue.
Salut Patrick, merci. Écoute, je prends une minute pour me présenter.
Vas-y.
Je m'appelle Alexis Roland et je suis effectivement à Shanghai. Je suis directeur de La Forge, une équipe de recherche et développement. On pourra peut-être rentrer dans le détail tout à l'heure pour présenter l'équipe. Et donc voilà, directeur de La Forge en Chine.
Directeur de La Forge chez Ubisoft. Tu ne l'as pas précisé, je ne l'ai pas précisé.
Oui, j'ai oublié
non plus
de préciser. Ubisoft La Forge.
Ubisoft La Forge, tout
le
à fait.
Le nom officiel.
C'est marrant quand on lance l'enregistrement. Parfois, il y a des gens dont la voix ne change pas du tout, et il y a des gens... Moi, ma voix change. Il y a des gens dont la voix descend 3 octaves. C'est le cas d'Alexis. Alexis, il nous parlait complètement...
C'est tout la pression, coup, c'est la pression.
C'est ça, c'est
ça. Je suis
ça.
Très intimidé. Première expérience de podcast.
Ça va bien se passer. Je suis très expérimenté de mon côté. Yves, bonjour aussi. Merci d'être avec
Salut,
nous.
Patrick. Merci, écoute, ça me fait plaisir.
Est-ce que tu pourrais toi aussi te présenter en quelques secondes?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Yves Jacquier et je suis le directeur exécutif de La Forge. La Forge, c'est chez Ubisoft le département de R&D qui vise à rassembler en fait la recherche académique et les besoins du jeu vidéo. On a créé un département qui vise à tester en fait et à essayer de faire avancer toutes les recherches académiques au bénéfice de l'application des jeux vidéo, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire donner accès aux chercheurs, aux technologies, aux données, aux expertises du jeu vidéo.
Et du coup, si on résume très simplement, La Forge, c'est le département R&D d'Ubisoft.
Oui.
Est-ce que, j'imagine, juste pour être précis, vous faites d'autres choses que juste de l'IA ou vous faites vraiment que de l'IA?
Alors, on ne fait pas que de l'IA. Par contre, quand on regarde les développements académiques de ces dernières années, l'IA, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce quand même. Ça a connu une explosion extraordinaire avec énormément d'applications pour plein de domaines, dont les jeux vidéo. Par contre, à des niveaux de maturité qui sont un petit peu différents. Une des missions qu'on a pour Ubisoft, c'est... de regarder tout ce qui existe à l'extérieur d'Ubi, et puis d'essayer de creuser un peu plus loin que l'effet démo. On s'est aperçu dans les dernières années, quand on parle d'IA justement, qu'il y a eu un tel buzz, un tel hype, et surtout beaucoup d'argent au niveau investissement, que beaucoup de gens communiquent sur une démo qui marche très bien dans un cadre très particulier. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse un petit peu plus loin, on travaille avec des chercheurs, on travaille avec des experts pour essayer de voir dans quel cas ça peut s'appliquer et dans quel cas ça s'applique beaucoup moins.
D'accord, donc des applications pratiques, quoi, vraiment à quoi ça peut servir, ce que ça peut donner dans le jeu vidéo. Merci à tous les deux d'être là. Avant qu'on commence à partir sur les sujets de recherche et ce que l'IA va permettre dans l'avenir, et je vais vous poser des questions bêtes sur l'IA générative aussi, évidemment, quand même, un des trucs qui revient de temps en temps, hein, y a des gens qui remontent leurs lunettes et qui me disent « Mais, well, actually, l'IA, ça existe depuis longtemps dans la recherche, sur le web, ça existe ici, ça existe là. » Et évidemment, dans le jeu vidéo, ces gens-là qui remontent leurs lunettes, je le dis avec beaucoup d'affection, ils ont raison. Et elles ont raison, mais c'est le cas aussi dans le jeu vidéo. On a de l'IA depuis longtemps dans le jeu vidéo. On ne va pas apprendre ça à tous ceux qui ont exploité un parcours un petit peu, comment dire, pas aléatoire, mais un parcours d'un garde qui faisait toujours le même et qu'on pouvait attraper juste quand il tournait derrière le mur. L'IA existe depuis longtemps dans le jeu vidéo. Est-ce qu'on peut, avant de commencer à parler recherche, dire un petit peu à quoi sert l'IA dans le jeu vidéo aujourd'hui ou jusqu'à aujourd'hui?
Alors, peut-être que... Il faut définir l'IA d'abord en général. L'IA, c'est l'avenir en fait, et ça le sera toujours. Parce que quand on y pense, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un système qui vise à faire ce qu'un humain ferait, ou prendre des décisions de qualité humaine. Et puis bah, ça, c'est une notion qui évolue dans le temps en fait. L'exemple que j'utilise souvent, c'est tout ce qui est correction grammaticale dans un éditeur de texte. Aujourd'hui, on appelle ça une fonctionnalité. Du temps de Gutenberg, on a appelé ça de la sorcellerie. Et puis, quelque part entre les deux, c'est de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un petit peu la même chose. C'est, l'intelligence artificielle, c'est toujours une espèce de promesse de faire évoluer les systèmes pour qu'ils prennent des décisions qui soient de qualité humaine, alors que nous-mêmes, on a évolué dans notre capacité de prendre des décisions. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, quand on creuse un tout petit peu plus au niveau du jeu vidéo, souvent, on confond dans les jeux vidéo ce qu'on appelle l'IA, donc l'intelligence artificielle,
et les scripts.
Les NPC. Exactement.
Ah, et les NPC. J'ai su. Yes, j'ai un point. Patrick, un point. Merci.
Et donc, les NPC, les personnages non jouables dans les jeux, à qui on essaye de faire reproduire un comportement. Là où c'est intéressant, c'est que souvent, quand les joueurs parlent de problèmes d'IA, ils parlent souvent de problèmes de manifestation de l'IA, plus que de l'IA elle-même. Par exemple, ils vont s'apercevoir que des personnages ont l'air stupides ou au contraire ont l'air trop difficiles. C'est souvent parce qu'il y a une animation, par exemple, qui ne représente pas bien que le personnage nous a vus ou au contraire ne nous a pas vus. L'IA en elle-même, elle est souvent très peu visible dans les jeux, quand on parle des NPC. Et puis, ben, aujourd'hui, il y a la troisième définition de l'IA dans les jeux, qui est plus reliée à ce qu'on appelle l'apprentissage machine ou machine learning, qui est un domaine très spécifique de l'IA, qui en fait vise à reproduire des comportements, pour le dire comme ça, ou des prédictions, non plus basées sur des règles, comme c'était avant, que ce soit des scripts ou que ce soit des règles type s'il se passe ça, alors fais ça.
Ouais, genre,
mais basé
tu vois
sur
le,
des statistiques.
Tu vois l'ennemi, tu vois le joueur, il est à telle distance, tu rentres en mode
exactement.
Alerte et tu te rapproches. Si tu le vois vraiment de plus près, tu te mets à attaquer. Ça, c'est les scripts, la manière dont on faisait les choses jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, tu parles de statistiques pour l'IA.
Oui. En fait, l'idée de statistique, c'est de dire, on va prendre énormément de données, et puis on va essayer dans ces données-là de trouver des patterns. Et c'est une manière de penser qui est complètement différente. En programmation traditionnelle, en scripting, en intelligence artificielle plus traditionnelle, on va utiliser ce qu'on appelle souvent des arbres de décision. S'il se passe ça, alors fais ça. Si le joueur passe à moins de 10 mètres, alors mets-toi en mode comme ci, comme ça. Donc, le focus, ça consiste à créer des règles qui sont paramétrés et d'avoir un contrôle là-dessus. Toute la beauté en fait du scripting, c'est d'arriver à créer des règles qui paraissent naturelles, qui ont l'air fun à jouer. À l'inverse, le machine learning, ça consiste à prendre des données qui sont des exemples qu'on va montrer à un système et d'avoir le système qui va généraliser à partir de ces données. Alors, donc ces données-là, ça peut être des photos, par exemple, pour dire, je vais montrer des milliers de photos de petits chats à une intelligence artificielle, qui à la fin peut faire deux choses. soit, quand je lui montre une nouvelle photo, être capable d'avoir généralisé, de détecter s'il y a un petit chat dans ma photo, c'est ce qu'on appelle le computer vision, ou au contraire, de me générer une photo de petit chat à partir de tous les exemples qu'elle a vus, et c'est ce qu'on appelle generative AI.
Et du coup, la limite de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, qui est les IA, de ce qu'on appelle communément les IA dans les jeux vidéo, c'est du scripting. Enfin, la limite du scripting, c'est qu'il faut prévoir tous les cas. Et du coup, c'est difficile de tout couvrir. Et effectivement, il n'y a pas de truc qui réfléchit derrière. C'est juste une série d'embranchements. Je ne sais pas si on peut déjà commencer à parler de la recherche et de ce que ça va donner à l'avenir. Avant ça, peut-être, c'est vraiment tout ce qu'on a, tout ce qu'on appelle IA dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est que du scripting ou il y a d'autres choses ? Je te vois dire non, Alexis.
Oui, en fait, pour compléter ce que disait Yves, c'est-à-dire qu'on a commencé en parlant des IA, des NPC, qui étaient faits effectivement avec du scripting, les arbres de décision, etc. Et on voit de plus en plus de recherches pour que ces IA soient faites à base de machine learning, et notamment ce qu'on appelle du reinforcement learning, où on va entraîner des NPC à reproduire des comportements, être récompensés pour certains comportements, voire pénalisés. Mais après, avec cette révolution du machine learning et du deep learning, dont parlait Yves sur l'utilisation des données, on se rend compte qu'il y a énormément d'applications sur les pipelines de production et de création des jeux, sur la création du contenu, en particulier pour les jeux, mais de manière, on va dire, ce qu'on appelle offline, c'est-à-dire en amont, lorsque le jeu est développé, pour accélérer les pipelines de production. Et là aussi, les IA, et en particulier les IA génératives, promettent une grosse révolution.
Du coup, si on parle un petit peu de ça, du sujet pour lequel on est là, en quoi est-ce que, enfin, de quelle manière est-ce que ça se manifeste ? On parle beaucoup d'IA et d'IA générative, et on a tendance à pas trop comprendre comment ça marche. Que ça crée des images, je peux comprendre. Que ça crée du texte, je peux comprendre. On commence à créer même des objets 3D, de la vidéo. Est-ce que du coup, on peut imaginer que ça crée une sorte de sous-routine, on va utiliser les termes de Matrix, de sous-routine du programme qui soit un ennemi, qui ait du coup un comportement qui ne soit pas scripté, mais qui soit géré par l'IA, qui a étudié, alors je ne sais pas ce qu'elle va étudier, elle va étudier des comportements de malfrats, de nombreux criminels qui font des rondes autour de la base du criminel. Et donc, son comportement sera plus semblable à un comportement naturel dans ce genre de situation, parce qu'elle-même va simuler, émuler, générer un comportement qu'elle aura appris par renforcement, etc. C'est ça dont on parle ? Genre, chaque ennemi sera un petit truc autonome ? Ouais, dis-moi, Alexis.
Je pense qu'en fait, il faut différencier les différents types d'IA. Ce qu'on appelle les IA génératives aujourd'hui, c'est des IA qui servent surtout à générer du contenu et pas forcément à faire de la prise de décision. Là où c'est les NPC, eux, ont besoin de prendre des décisions pour agir et interagir avec le joueur. Donc, je pense que les IA dont on parle pour les NPC, même si elles peuvent être à base de machine learning, et on l'a mentionné, de reinforcement learning en particulier, c'est une catégorie d'IA qui est complètement différente des IA génératives aujourd'hui, et d'accord, les cas d'usage ne vont pas être les mêmes. Mais on pourrait rentrer dans le détail des différents types, mais peut-être tu voulais rajouter quelque chose, Yves ?
D'abord, il y a un truc, je pense, qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. C'est des outils différents dans la boîte à outils.
Tu parles d'IA ou de scripting ou ce genre de choses, ouais, ça va être utile, exactement, dans différents cas, oui.
Ça va être utile dans différents cas. De manière générale, l'intelligence artificielle à base de script ou à base d'arbres de décision, c'est quand on va vouloir beaucoup de contrôle, mais au dépend d'une forme de variété ou de mise à l'échelle. Parce qu'effectivement, on doit prévoir tous les cas de figure. À l'inverse, tout ce qui est machine learning, oui, ça permet une mise à l'échelle beaucoup, beaucoup plus grande. Par contre, il faut accepter d'avoir moins de contrôle sur la sortie du système, parce que par définition, c'est des systèmes qui sont statistiques, quelque part, qui sont probabilistes. Donc, il ne faut pas penser qu'il y en a un qui est en train de supprimer l'autre ou qui est meilleur que l'autre. Ça va être beaucoup plus au niveau de cas d'usage. Si je prends, sans parler tout de suite d'IA générative, mais rien qu'en regardant les NPC et l'usage qu'on a au niveau IA. On avait fait une expérience il y a déjà à peu près 5 ans, où on avait entraîné des NPC dans un jeu qui s'appelle For Honor, en se disant ça va être des combattants qu'on va mettre en face de vrais joueurs. Et en fait, c'était catastrophique.
Ah oui.
Parce que on avait tellement bien entraîné ces bots-là que pour les débutants, ils étaient trop durs, en fait. Et là, on voulait les utiliser pour aider à tout ce qui est onboarding sur le jeu. C'était devenu complètement contre-productif. Et on n'arrivait pas à régler en fait en précision en disant on veut que le NPC soit un peu plus lent ou soit un peu plus un peu moins difficile. Dès qu'on faisait ça, on se remettait à scripter par-dessus le système de machine learning. Ouais.
Tu l'entraînes sur moi, il y a pas de problème, hein, les débutants vont défoncer l'IA direct.
On l'avait entraîné, comme disait Alexis, sur ce qu'on appelle du reinforcement learning. Donc, en fait, on laisse le NPC ou le combattant apprendre par lui-même des règles. Puis, on lui donne des récompenses ou des punitions. On lui dit, tiens, je te laisse t'entraîner dans cet environnement-là. Et puis, chaque fois que tu portes un coup, tu gagnes 5 points. Chaque fois que tu prends un coup, tu perds un point. Et puis, à toi de trouver la meilleure stratégie. On laisse jouer 10 000 ou 20 000 parties, c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, il va converger. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que...
C'est les mêmes méthodes que les DeepMind qui apprennent à jouer aux échecs, puis au Go, puis même à StarCraft et ce genre de choses, qui au bout d'un moment
les jeux savent
jouer.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Donc on laisse jouer un certain nombre de parties. Donc pour revenir à mes NPC dans For Honor, c'est là qu'on s'est aperçu que l'usage en face d'un joueur, c'était pas encore mature, c'était pas encore le bon usage. Par contre, que ça pouvait être un excellent système d'aide au design. Où, par exemple, on pouvait avoir un designer qui créait un nouveau combattant, et puis d'avoir ce nouveau combattant qui testait tous les autres personnages pour voir si on n'avait pas créé un exploit dans le jeu. Et c'est l'application qu'on est allé chercher. Donc, tout ça pour dire que ça reste des outils qui sont d'applications différentes, mais il n'y en a pas un qui est plus adapté que l'autre en général. Il n'y en a pas un qui va écraser l'autre, selon moi.
Pas encore, jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle, bien sûr. Mais on a un peu de temps. Du coup, tu parles d'outils et de différents types d'usages. Est-ce que on n'a pas dans la... Je reviens systématiquement aux IA génératives, mais un des trucs auxquels on pense forcément quand on voit ce genre d'outils, c'est la manière dont ça peut, alors pour les plus pessimistes, faire le travail d'une personne, faire le travail d'un humain. Et pour les plus optimistes, dont ça peut aider à faire plus avec moins de moyens, ce qui est l'un est peut-être équivalent à l'autre, mais il y a des subtilités là-dedans. Et dites-moi si c'est un domaine que vous n'explorez pas vraiment, mais par exemple, je dois faire un open world, je dois créer, je ne sais pas moi, 50 bâtiments différents. Je demande à une IA de me créer des bâtiments. Alors, c'est peut-être trop spécifique dans ce cas-là, mais... Ou alors des textures différentes pour des armes ou des trucs qui ne vont pas forcément être au premier plan. L'IA m'en crache 200, j'en choisis 20, et j'en retouche... J'en choisis 50, j'en retouche 20. Ça facilite le travail d'un designer. Ça lui permet peut-être de travailler plus vite, mieux. J'imagine que c'est un domaine qui vous intéresse aussi. Ou est-ce que c'est moins votre cam?
C'est évidemment intéressant, mais avant de rentrer dans le détail des bénéfices en termes de productivité, je pense qu'il y a d'autres bénéfices qui peuvent être couverts grâce aux IA génératives. On peut aussi imaginer, grâce à ce type d'IA, des expériences de gameplay qui soient peut-être plus immersives, qui soient... peut-être plus émergente, moins contrôlée, puisque du coup, c'est pas scripté comme le décrivait Yves, et qui du coup peuvent venir enrichir l'expérience du joueur. Je pense notamment, pour revenir sur les NPC, sur la génération de texte par exemple, à la ChatGPT, où on voit déjà des démos sur Internet de gens qui incluent ChatGPT dans des jeux pour avoir des NPC non scriptés qui vont pouvoir dialoguer avec le joueur et fournir une expérience hyper immersive, émergente et riche du coup.
Et ça, donc, mais ça vous fait
possibilités.
Ça vous fait pas peur, ça? Enfin, peur, je veux dire, l'IA, on a vu à quel point elles sont pas encore au point, justement, et parfois, enfin, alors, elles font très très bien, mais parfois ça déraille et ça dit des trucs bizarres. Un même, c'est très vite parti, quoi. Et vous le savez bien.
Il y a des vrais enjeux sur la gestion du contenu généré par ces IA, effectivement, la toxicité, s'assurer que le contenu soit safe et respectueux, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu de cas d'usage aujourd'hui dans des jeux commerciaux, parce que ces questions-là ne sont pas encore complètement résolues. OpenAI, on l'a vu aussi dans la presse, a mis beaucoup d'efforts pour essayer de contrôler ce que ressort ChatGPT et qu'il soit le moins toxique possible. Donc, sur les IA génératives, pour revenir sur les cas d'usage, il y avait la productivité, telle que tu le disais, effectivement, sur générer peut-être du contenu qui va aider les créateurs de contenu et les développeurs de jeux. Il y a potentiellement des expériences de jeu plus immersives avec des fonctionnalités de gameplay à base d'IA générative.
Comment ça marche, ça, tu l'as
aussi imagé.
Pardon, juste... Avant de passer à d'autres exemples, comment est-ce que on imagine créer des expériences différentes grâce à une IA ?
Un exemple qui me vient à l'esprit sur les dialogues, encore une fois, c'est générer du texte à la volée via une IA. C'est super cool parce que ça donne une expérience immersive naturelle. Et donc qui va être nouvelle à chaque fois que le joueur va interagir avec le NPC. Mais par contre, si c'est juste du dialogue et qu'il n'y a finalement pas d'enjeu derrière de mécanique de gameplay où le NPC va peut-être donner une quête ou va peut-être divulguer des informations sur le monde qui vont aider le joueur dans sa quête principale, etc. Si ce n'est pas connecté à des mécanismes de gameplay, finalement, ça, c'est peut-être un peu juste gimmick. Et le joueur, il va chatter avec le NPC quelques minutes et puis après, il va repartir sur sa quête principale ou jouer au jeu, quoi. Donc là où ça peut être intéressant, c'est si on arrive à connecter ces IA génératives avec des mécanismes core gameplay, finalement, qui font partie du jeu, quoi. Et je pense que c'est un peu sur ce qu'on appelle des features player-facing, donc que les joueurs peuvent voir dans les jeux, c'est un peu un des champs d'exploration aujourd'hui sur lequel l'industrie se penche.
Du coup, tu penses avant tout à des dialogues, parce que quand tu dis des nouvelles expériences, moi je me suis dit, est-ce que l'IA va générer, je sais pas, un mode de jeu différent de ceux qui existent avec le moteur existant, hein, mais un mode de jeu différent ou ce genre de choses. On a vu d'ailleurs, alors c'était un petit peu, tu parles de gimmick, c'était un peu gimmick, mais le générateur de niveau de Mario, j'imagine que vous l'avez vu passer, qui faisait des trucs comme ça. Ce genre de choses, c'est encore loin. On n'y est pas du tout.
On y est, mais c'est de l'effet démo pur et dur dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi l'intérêt? Au-delà de faire parler et puis au-delà d'avoir soit un papier, soit une belle vidéo, l'intérêt soit pour le créateur, soit pour le consommateur, le joueur, je ne suis pas certain. Ça fait partie en fait des choses que compagnie de jeux vidéo, c'est pour ça qu'on regarde aussi tout ça de très près, c'est qu'on veut garder en tête quelle est la valeur en fait de ces outils-là. Ça reste des outils. Et tout à l'heure, tu parlais de est-ce que ça peut remplacer des créateurs, est-ce que c'est une menace. Je pense que ça dépend beaucoup de la manière dont on décide de l'utiliser. Et il y a à la fois des questions très, on va dire, qui sont de l'ordre de la responsabilité sociale et qui ne sont pas juste pour le jeu vidéo. Et puis, il y a aussi des décisions qui sont très, très rationnelles, mais qui arrivent à la même conclusion. Pour nous, ces technologies-là doivent, dans tous les cas, assister le créateur et non pas assister la création. C'est vraiment assister le créateur. Ça doit être considéré comme un outil. On voit d'ailleurs ce que ChatGPT peut donner quand il hallucine. Je préfère, dans mon cas, qu'un ChatGPT ou ce genre de technologie-là assiste nos writers, nos écrivains, à écrire plus de variétés de dialogues plus rapidement, mais tout en leur laissant à eux le contrôle sur la sortie. Ça, c'est un exemple. Mmh. L'autre chose, si je prends la génération 2D, par exemple, parce que c'est quelque chose, je pense qu'on y est tous, on voit tout ça sur nos réseaux sociaux, des gens qui génèrent des images absolument extraordinaires. Ce qu'on oublie de dire, c'est que comment est-ce qu'on va faire en tant que compagnie de jeux vidéo si n'importe qui... Moi, j'ai aucune compétence hein, graphique, je vous l'avoue bien candidement, mais je suis capable, avec ce genre de technologie-là, de créer des images. Et mes enfants regardent ça, ils font « Waouh, papa, qu'est-ce que t'es fort !» Par contre, ça, c'est, ce que ça veut dire, c'est que ces technologies-là permettent de sortir quelque chose qui est vanille, que n'importe qui va être capable de créer. Ce qui veut dire qu'on va être inondé par ce genre de contenu-là. Donc, d'un point de vue strictement business, ben, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot ? Comment est-ce qu'on fait pour assister nos créateurs de manière à ce qu'ils puissent utiliser ces technologies-là, mais tout en rajoutant ce petit supplément d'âme qu'il y a au-dessus, que moi je suis incapable de faire d'un point de vue graphique, mais qui permet de créer des choses réellement surprenantes et qui ne sont pas
que tout le monde va pouvoir faire
en ce moment sur Internet. Exactement. Ouais. Donc, mais... c'est à la fois une décision de responsabilité sociale par rapport à nos créateurs, mais aussi une décision très business, en fait, de garder de laisser le contrôle aux créateurs.
Alors, tu parles de business et de responsabilité sociale. C'est un sujet qui va occuper, je pense... toutes les sociétés de jeux vidéo et toutes les sociétés du monde dans les années à venir. Mais il y a forcément une tentation de se dire, bon, bah, ce que je faisais avec 10 artistes graphiques 3D hier, je peux le faire avec 2 demain. Et oui, on va laisser le contrôle aux créateurs et ils vont générer, comme je disais tout à l'heure, 200 exemples et on va en garder 20, ils vont eux-mêmes le faire. Mais on peut faire le travail avec beaucoup moins de monde. Ça, c'est un truc qui vous préoccupe. Alors, peut-être pas vous directement, parce que vous êtes à la forge et vous faites de la recherche. Mais j'imagine que c'est des questions qui vous traversent l'esprit quand vous réussissez à faire des choses de ce genre-là. Puisque tu parles de responsabilité sociale, comment est-ce que vous envisagez la chose, vous, qui êtes sur le front de ce changement qui arrive et qui est inévitable de toute façon ?
Alors, j'ai peut-être une anecdote là-dessus. Alors, je peux évidemment pas parler pour les autres de l'industrie, mais c'était en 2019, donc il y a 4 ans, j'avais été invité par Yves Guillemot, le président d'Ubisoft, à venir faire une présentation devant des investisseurs institutionnels pour montrer en fait ce qu'on faisait déjà à l'époque d'un point de vue intelligence artificielle. Et dans le cadre de la préparation de cette présentation, j'avais pu discuter avec lui et je lui ai dit on a un éléphant dans la pièce, c'est que toute cette automatisation-là, on va nous demander à un moment donné comment est-ce qu'on compte la réutiliser. Qu'est-ce qu'on va faire de cette belle productivité ? Et je lui ai dit moi, d'un point de vue recherche, je peux expliquer les impacts, par contre, je ne peux pas expliquer la manière dont on va l'utiliser d'un point de vue d'Ubisoft. Et la réponse d'Yves Guillemot avait été très claire. Il avait eu la question, effectivement, des investisseurs pendant la présentation. Il avait été très clair. Il avait dit qu'on allait réinvestir cette productivité. Donc, en d'autres termes, qu'on allait non pas chercher à diminuer le nombre de créateurs, mais qu'on allait s'assurer que s'ils allaient plus vite, on allait leur permettre de faire plus de choses, ou plus exactement de se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Si je prends l'exemple de la création de personnages, c'est quelque chose sur lequel on a été assez actif ces dernières années. Si quelqu'un qui crée des personnages doit créer une foule dans un jeu comme Assassin's Creed ou Watch Dogs, par exemple, et des personnages principaux, si on est capable d'automatiser la création des faces de toute la foule de manière automatique, en disant je veux telle diversité dans la foule, j'appuie sur un bouton et ça me génère une foule avec tout ce qu'il faut de diversité, d'ethnicité, de genre, d'âge, etc. Ça laisse plus de temps à mon créateur pour créer des personnages principaux et secondaires qui vont être beaucoup plus fins et beaucoup plus intéressants. Donc c'est ça l'esprit en tout cas de l'application qu'on a trouvée chez Ubisoft et qui a été validée par le Big Boss lui-même.
C'est déjà implémenté ce genre de choses ou on est encore trop tôt dans la, recherche?
Alors,
pour
c'est déjà implémenté. On n'a pas encore le bouton unique pour générer la foule. Par contre, on a déjà la technologie qui permet de le faire en diminuant les temps de production. On est passé à peu près une division par 10 pour des personnages en haute résolution.
D'accord.
En temps.
Ouais. Bon, après, je ne vais pas commenter très longtemps là-dessus, mais il est évident qu'il y a des tensions avec une société au sens large et au sens d'une entreprise capitaliste, et le fait de vouloir produire des projets à des coûts aussi réduits que possible, mais en même temps de plus en plus ambitieux. Et là, il y a un truc qui me parle dans une dynamique qui est peut-être qui échappe un petit peu aux gens quand on est confronté à cette IA, à ces IA et aux possibilités que ça donne les premières fois. C'est ce que tu disais tout à l'heure et qui s'applique au graphisme, à tout ce qui est artistique et au level design encore plus, au game design, enfin au level design en tout cas, c'est que si tout le monde peut faire un truc avec un outil, il faut savoir se différencier, il faut pouvoir se différencier, et encore plus dans des jeux. Alors, bon, chez Ubi, vous faites plein de types de jeux différents, mais vous avez une partie de vos productions qui sont extrêmement ambitieuses et de plus en plus ambitieuses. Et moi, j'ai un exemple avec les vélos qui permettent d'aller plus loin et donc de multiples productivités, machin, tout ça, mais qui permettent du coup de faire des choses encore plus ambitieuses alors que ça devenait difficilement tenable avec des équipes qui font déjà des centaines, des milliers de personnes. Bon, espérons que ça aille dans ce sens et que ce genre de choses puissent exister.
Plus ambitieux et même plus différenciant. C'est ce que disait Yves, injecter ce gain de productivité pour s'assurer que les créations sont différentes du reste des autres jeux. Comme le disait Yves, et comme tu le disais, cette technologie, comme elle donne accès à des gens qui ne sont pas forcément des artistes, elle va diminuer la barre pour créer du contenu, si on prend l'exemple des images. Du coup, ça va créer un flux de contenu super important, une abondance de contenu, une nécessité de se différencier vis-à-vis de cette abondance. Et ça, on peut le faire que grâce à nos créateurs humains, finalement. Et donc, réinjecter ce gain de productivité pour créer cet extra de créativité dont on a besoin dans nos jeux.
Moi, j'avoue que je n'ai pas une énorme confiance dans... je n'ai pas une confiance aveugle dans les mécanismes de production. Par contre, ce que je crois, c'est que pour vendre des jeux, il faut faire des jeux qui ne soient pas systématiquement les mêmes que ce que font tous les autres. Et donc là, effectivement, je crois qu'il y a une part d'humain qui est complètement inaliénable. On ne peut pas encore, peut-être un jour, encore une fois, quand ils auront pris le pouvoir, confier un truc à une IA, il va tout nous faire depuis le début. Bon, bref, ça c'est un débat qui est un petit peu plus large. On est parti sur cette tangente, mais Alexis, t'allais nous parler d'autres exemples d'utilisation d'IA quand on s'est mis à parler de dialogue et ce genre de choses, d'utilisation d'IA qu'on envisage aujourd'hui.
Oui, j'avais un troisième exemple en tête qui était de mettre ces IA aussi entre les mains des joueurs pour de la génération de contenu, de ce qu'on appelle du user-generated content. Où là encore, on revient un peu sur les risques en termes de contrôle donné à ces IA et de type de contenu qui peuvent être générés, où il y avait forcément des questions à résoudre là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on voit des jeux avec GC et les joueurs raffolent de cela parce que ça leur permet d'avoir des jeux à leur image, des expériences personnalisées, demain, en mettant ces IA entre les mains, ces IA génératives entre les mains des joueurs, on peut imaginer du... comme on disait entre nous, du UGC on stéroïde, très très puissant pour permettre aux joueurs d'exprimer leur créativité et de personnaliser leur expérience. Et donc ça, c'est encore une autre application possible finalement.
Est-ce que ça serait différent de ce qui est déjà possible dans certains jeux où il y a effectivement la possibilité de créer ses propres... Enfin, je ne sais pas si on prend, pour rester dans la maison là encore, Trackmania par exemple. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais l'une des fonctionnalités du jeu, c'est de pouvoir créer ses propres circuits. C'est déjà possible. En quoi ça serait amélioré par l'utilisation de l'IA, ou est-ce qu'on pense à complètement autre chose?
Je pense que c'est beaucoup relié aux interfaces, en fait. C'est la manière de générer ce contenu. Aujourd'hui, quand on joue avec un ChatGPT, quand on joue avec Midjourney ou les autres, la différence, c'est la capacité de générer un contenu complexe avec ce qu'on appelle un prompt, donc un contenu relativement simple, que ce soit une phrase, une image ou la somme des deux. Et je pense que c'est ça qui fait, quand on parle d'AI génératif, c'est d'un point de vue de l'accessibilité de la génération d'un côté et de la complexité de la sortie de l'autre. Aujourd'hui, on a des interfaces qui sont bien pensées, mais qui restent logiquement relativement rigides, qui sont concentrées à faire une et une chose et qui le font bien, et qui génèrent en sortie un contenu qui est utile et bien pensé, mais la même chose, qui est relativement verticale. Dans Trackmania, on parle de créer des circuits de course. Là, on est en train de dire, bah, par exemple, avec un smartphone, la capacité de se scanner et puis de finir dans le jeu, ou de scanner des objets en 3D et les mettre directement dans le jeu, et ça en moins de 3 minutes. La capacité de créer une nouvelle voix pour un personnage dans un jeu, par exemple. Donc, toutes ces applications-là sont des applications qui vont probablement définir ce qu'est le user-generated content du futur. Un exemple très très concret, c'est ce qu'a annoncé Roblox, je pense que c'est il y a une dizaine de jours, une nouvelle fonctionnalité, les scripts dans Roblox pour écrire des changements de couleurs ou des choses comme ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Ils ont défini tout un langage de scripting pour faire ça. Ils ont inclus une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire ces modifications avec du langage naturel. Donc d'écrire une phrase de type « je veux que la voiture change de couleur et devienne rouge ». Et puis, bah, automatiquement, ça va changer la couleur de la voiture. Dans ce cas-là, bah, on ouvre l'accessibilité potentiellement à beaucoup plus de monde. Donc c'est là pour moi la différence. Le public, en général, pas juste dans les jeux vidéo, va s'habituer de plus en plus à utiliser ce genre d'interface dans la vie de tous les jours, que ce soit pour utiliser un moteur de recherche, que ce soit pour commander une pizza ou d'autres choses. Donc je pense que dans le jeu vidéo, si on permet à l'utilisateur de créer du contenu, on n'aura pas le choix que de s'aligner sur ce genre d'interface, en fait. Parce que dans tout le reste de sa vie, c'est ce qui va se passer.
C'est une manière intéressante de voir la chose. L'IA, au-delà des capacités magiques que tu évoquais tout à l'heure, c'est autant une manière d'interfacer avec la machine, finalement, et d'interfacer de manière plus naturelle pour les humains. Et là où je peux tout à fait imaginer les dérives, si on met ça entre les mains des joueurs, je me demande si l'une de vos pistes de recherche n'est pas aussi de l'intégrer dans les outils de développement et d'avoir effectivement... Enfin, les outils de développement ont énormément changé, énormément évolué depuis le début des jeux vidéo. Et c'est pour ça aussi que quand j'entends des peurs que je comprends par rapport à l'IA... ce genre d'outil a toujours facilité la production depuis 20-30 ans et aujourd'hui, je disais peut-être qu'on pourra faire des choses encore plus complexes et encore plus ambitieuses avec ces outils. Les jeux qu'on fait aujourd'hui n'auraient pas été possibles avec les outils d'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc on est déjà dans ce type d'évolution et je me demande d'ailleurs si en développant Watch Dogs 3, les développeurs se sont dit merde, si on avait eu en voyant ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, ils se sont pas dit si on avait eu ça aujourd'hui, Watch Dogs 3 où on peut jouer n'importe quel personnage de toute la foule, etc., de toute la ville, si on avait eu ça, ça aurait été encore plus faisable comme ambition. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur l'interface, l'intégration aux outils de développement, est-ce que c'est une piste que vous explorez? Est-ce que c'est déjà en cours ou il est trop tôt là aussi?
Ah bah, Oui, mais je dirais c'est pas propre à tout ce qui est générative AI.
Bien
Les
sûr, c'est
exemples
vrai.
dans l'industrie en général, les meilleurs exemples de contenu généré par les joueurs, de user-generated content, sont arrivés quand le joueur a eu entre les mains une version souvent simplifiée de ce que les développeurs avaient, parce que c'est ce qui permet. C'est logique. Quand on crée une pipeline de création de jeu qui nécessite du code, des données, etc., on va optimiser cette pipeline-là pour que chaque artiste, chaque créateur contribue à la fin à créer le jeu. Donc, le spécialiste de l'animation crée son animation qui ensuite est prise dans les tuyaux pour aller pour finir dans le jeu. Donc, si on veut être capable que de faire en sorte que le joueur soit capable de créer un contenu de haut niveau, c'est sûr qu'il est tentant de dire ben, on va prendre ce tuyau, on va le simplifier un tout petit peu, mais ça va être le même quelque part, ça va être une version simplifiée. Maintenant, la première application qu'on a d'un point de vue générative AI, elle est d'abord effectivement d'assister nos créateurs. Parce que c'est à eux de nous dire où est-ce que c'est pertinent et où est-ce que c'est pas pertinent. J'ai un exemple sur le text-to-speech, par exemple, la génération de voix. C'est un truc aussi qu'on regarde depuis quelques années, où l'idée, en fait, elle est simple, elle est de se dire, ben, est-ce que je peux pas rajouter beaucoup plus de variété dans le monde en générant des voix plutôt que en enregistrant des gens qui vont parler de « je te vends du poisson, oui, combien tu me le vends », etc., ce qui a assez peu de valeur ajoutée, quelque part, à part créer des mondes crédibles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait commencé une première version de text-to-speech il y a quelques années, et les créateurs de nos jeux ont dit « super, la qualité est vraiment bien, mais c'est pas suffisamment expressif ». Ah bon, même pour vendre du poisson, bah oui, on perd un petit peu en intention. Alors, on a travaillé là-dessus, on s'est mis à créer des voix beaucoup plus expressives. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous disent, bah, dans ce cas-là, ça marche très bien et ça nous aide. Dans ce cas-là, non. Il faut qu'on enregistre encore avec les méthodes plus classiques. Donc, je crois que le fait de passer par nos créateurs d'abord permet de bien discerner. Quels sont les cas d'usage qui sont réellement pertinents pour ce qu'on fait? Et par extension, qui peuvent être pertinents pour nos joueurs, pour la création de contenu.
Pour rebondir là-dessus, si je peux rajouter quelque chose, c'est d'autant plus important de le faire avec les créateurs. Quand on voit aujourd'hui la vitesse à laquelle ça va sur les IA génératives, je pense à la génération des images, etc., c'est tellement nouveau et ça va tellement vite qu'on se rend compte que les workflows et la façon dont ces IA peuvent être utilisées ne sont pas encore bien établies. Ça change d'un mois sur l'autre dès qu'il y a une nouvelle IA qui sort, un nouveau papier qui est publié. Et on se rend compte que ce sont les créateurs eux-mêmes qui sont en mesure de mieux définir les workflows, les cas d'usage, comment ils veulent intégrer ça dans leur façon de travailler. Et donc souvent, on voit, si je prends l'exemple des images, des artistes un peu curieux qui sont capables de faire tourner ces IA sur leur machine, d'expérimenter avec, et qui reviennent vers nous, équipe de R&D, en nous disant, regardez ce que j'ai fait, comment je l'ai utilisé. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour amener ça à l'échelle, et faire en sorte que ce soit top-notch. Et donc finalement, encore une fois, avoir les créateurs au centre de ce process, c'est eux qui sont les mieux placés pour établir les workflows et comment ils vont utiliser ces IA demain, quoi.
J'imagine que le fait d'être en interne à une boîte de jeux vidéo, forcément, ça vous focalise et ça vous permet d'avancer dans le bon sens, peut-être plus vite que si vous faisiez un projet de recherche complètement indépendant. On a beaucoup parlé de ce qui se passe aujourd'hui, enfin, et de ce qui est en développement aujourd'hui et en recherche aujourd'hui. Si on tourne notre regard un petit peu vers l'avenir, on va pas parler de science-fiction, mais allez, 5-10 ans qui viennent, est-ce que vous pouvez nous faire rêver un petit peu ou peut-être nous terrifier un petit peu aussi
Voilà.
en nous disant que une IA,
Les
tu lui dis alors
prédictions.
fais-moi un jeu bien et tout à coup elle va te. Ah ok,
Alors,
tu veux un jeu bien,
5-10 ans,
d'accord, ok. Non,
5-10 ans,
j'exagère, mais.
je trouve ça très très loin.
Ah oui,
Chaque
c'est
mois, il y a
vrai?
des nouveaux papiers qui sortent et qui changent tout.
Ah oui,
D'un mois
d'accord.
sur l'autre, il y a déjà des innovations incroyables qui apparaissent en ce moment. En fait, la vitesse à laquelle ça va en ce moment, il y a une accélération folle depuis l'été dernier sur ces sujets-là. Donc 5-10 ans, ce serait bien périlleux de faire des prédictions, je crois, sachant que déjà dans 6 mois, on risque de se planter. Mais effectivement, si on regarde l'état de l'art aujourd'hui, donc les IA génératives qui sont plus matures, la génération de texte, la génération d'images, la génération d'audio, avec le text-to-speech par exemple.
Oui, entre parenthèses, Eleven Labs, qui est une société qui fait de l'audio synthétique, en fait, permet non seulement de créer des voix qui n'existent pas, mais en plus de synthétiser la voix d'une personne qui existe. Ça, on en parle beaucoup dans le rendez-vous tech et dans ce genre de choses. Ça, l'application est immédiate pour le jeu vidéo, et c'est un truc qui n'était pas disponible commercialement. Alors, c'est peut-être un peu trop cher à implémenter dans un jeu vidéo à grande échelle aujourd'hui, mais ça n'existait pas il y a quelques semaines, ou en tout cas, ce n'était pas disponible. Donc oui, ça change absolument tout le temps. Oui.
Tout à fait. Non, ça va une vitesse folle, c'est ébouriffant. Et très récemment, il y a une autre société qui a sorti aussi une application pour faire de la génération de vidéos, Gen 1. Donc c'est une société qui s'appelle Runway ML, qui ont travaillé sur la génération d'images aussi par le passé. Maintenant, quand on est dans l'industrie du jeu vidéo, évidemment, on regarde des applications un peu plus spécifiques sur la génération de modèles 3D, où il y a énormément de papiers qui sortent sur ce sujet en ce moment. La génération d'animation également, et la génération de textures. Enfin, on pourrait imaginer à peu près tout type de contenu digital. Prédiction à 5-10 ans, c'est très très difficile. Moi, ma prédiction, c'est cette année, la 3D, c'est sûr, on va y arriver. On voit déjà des startups, des papiers qui sortent là-dessus, avec des résultats qui ne sont pas hyper satisfaisants aujourd'hui, mais compte tenu de la trajectoire qu'on voit, je pense que d'ici la fin de l'année, on verra des choses très très intéressantes là-dessus.
Ce qui est... On peut noter, par exemple, que Dali, le premier, faisait des images de 256 par 256 pixels, un truc du genre. Et le 2, qui est arrivé quoi, 2 ans plus tard, il fait des images en HD et de très bonne qualité. Et on est un petit peu à cette étape pour la vidéo et pour la 3D. D'ailleurs, Pointy de OpenAI aussi fait de la génération de modèles 3D, etc. C'est très sommaire, mais oui, on peut imaginer que ça aille, que ça se développe vite.
Il y a Microsoft... Microsoft a sorti quelque chose d'incroyable sur la 3D, la génération d'avatars. Ils appellent ça 3D Avatar, tout simplement.
D'accord.
À base de texte, je t'invite à regarder ce qu'ils ont fait. C'était très impressionnant.
Et c'est des avatars, c'est des modèles 3D, des mèches importables dans un logiciel 3D et tout ? C'est pas juste une image ?
Exact. D'accord. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est il y a plusieurs... il y a 1 ou 2 ans, ils ont créé un jeu de données synthétique où ils ont modélisé des avatars en 3D de manière procédurale avec différentes ethnicités, différentes coupes de cheveux, différents faciès. Mmh. Et ils ont utilisé ces données synthétiques pour entraîner une IA à faire de la génération à partir de texte.
On peut pas prédire à 5-10 ans, mais on peut imaginer et rêver le jour où ces choses-là seront perfectionnées, où on dit « sors-moi une texture qui fait ceci, cela ». Je suis sûr que les gens qui écoutent ça ont parlé des acteurs qui font les voix tout à l'heure. Aujourd'hui, on se dit « oui, on a encore besoin de quelqu'un qui a l'émotion, qui va pouvoir machin ». Mais si l'IA le fait parfaitement bien, c'est à la fois fascinant, merveilleux et terrifiant, parce que Tout doit changer. Ouais. L'industrie, et on parle du jeu vidéo aujourd'hui, donc c'est ça qu'on parle, mais ça va affecter toutes les industries. Tout doit être transformé, et c'est inévitable en plus.
Tout à fait. Mais après, c'est aussi la direction que ça va prendre, la vitesse et l'impact. On sait que tout ça, c'est hors norme, mais il est difficile de prédire la sortie. Un des exemples, c'est les gens qui aujourd'hui font de la traduction. Les gens qui font de la traduction, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils diminuent avec tous les systèmes de traduction automatique. C'est pas le cas parce qu'ils font beaucoup de révisions de traduction automatique et ils font aussi beaucoup de localisation. Donc vraiment, quand ça va au-delà de la traduction, mais qu'on essaie d'adapter vraiment un contenu. Et de fait, leur nombre, j'avais lu des statistiques, a plutôt augmenté. Avec l'arrivée de ces technologies-là. Je pense que si on regarde à 5-10 ans, effectivement, c'est difficile d'avoir une boule de cristal, mais on va avoir de plus en plus, ce que tu disais tout à l'heure, du contenu généré à la pièce, parce qu'on parle de générer, oui, des assets, des animations, de la 3D, de la 2D, mais du code aussi. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de rip-off de jeux, souvent des jeux simples, qui vont être faits par deux personnes dans un garage et qui vont être capables de refaire tout un jeu. Aujourd'hui, ChatGPT est capable de te donner le code pour refaire Pac-Man. Par exemple. Donc ça, on va en voir de plus en plus. Et puis quand je parle avec des collègues de l'industrie, certaines boîtes voient ça comme une menace, en fait, de voir de plus en plus de rip-off de leurs jeux disponibles un peu partout. L'autre, je pense que ce qui va, là où ça va créer plus de valeur, c'est quand on va commencer à utiliser ces systèmes-là pour générer non pas des choses qui sont très verticales, comme une voix, un modèle 3D ou une animation, mais on va être capable de créer un personnage au complet, par exemple, avec une forme de cohérence, en fait. C'est quelqu'un qui est comme ci, qui est comme ça, qui a telle expérience, et puis qu'est-ce que ça veut dire sur sa voix, sur son animation, sur le modeling, etc. Et ça, on n'est pas encore rendu là. On est capable de générer les ingrédients, mais pas encore de générer le plat final qui arrive dans l'assiette, pour des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais un des points importants aussi, c'est que tout ça, ça ne peut pas se développer. On parle beaucoup d'IA générative aujourd'hui, mais on ne parle pas de son pendant, qui est la modération. Je pense que aujourd'hui, on parle un peu de modération au niveau toxicité en ligne, etc. Mais ça n'a pas le choix que de se développer, cette partie-là. Soit en interne, pour s'assurer, par exemple, qu'une IA ne va pas générer le facial d'un acteur célèbre, exactement, ou quelque chose qu'on ne veut pas, ou le facial d'un acteur célèbre, ou je veux générer une voiture, et puis ça génère une voiture qui est un peu trop proche de certains modèles déposés, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se développe pas encore trop, mais je pense que ça va se développer inévitablement dans les prochaines années, et je l'espère que ça s'accompagne aussi d'une forme de régulation, en fait. Un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en Europe avec GDPR, qui est contraignant par certains aspects, mais qui permet aussi de mettre certaines balises. Donc je m'attends à voir ça aussi dans les prochaines années, mais l'image, en fait, que quelqu'un m'a donné et que j'aime bien, c'est de se dire aujourd'hui, on est un petit peu comme au moment où on voit Google Maps qui arrive, où tout le monde se dit c'est super cool. Google Maps est arrivé en 2005, puis quand on a vu ça, on a tout vu le côté gadget. Allez, je vais aller voir ma rue et à quoi ça ressemble, etc. Et on a trouvé ça super cool. Mais les premières applications concrètes et disruptives, ça a été en 2009. Avec l'arrivée d'Uber. Et je pense qu'en 2005, il aurait été impossible de prédire qu'un Uber allait arriver et complètement changer les règles des systèmes de transportation urbain. Et je pense qu'on est rendu là au niveau génératif AI. On est en train de voir ça et on est tous en train de se poser la question, c'est quoi le Uber du jeu vidéo et c'est quoi, de manière générale, la valeur ajoutée à aller chercher là-dedans?
C'est une bonne comparaison, Uber, parce que c'est à la fois hyper disruptif, ça a changé beaucoup de choses, amené beaucoup de services, rendu beaucoup de services à beaucoup d'utilisateurs et en même temps perturbé certains modèles dans la société, bousculé même. L'IA, finalement, ce que je comprends de toute notre conversation, c'est que c'est une brique et on va voir ce qu'on va construire avec ces briques. Moi, j'espère que ça permettra à des petites équipes. Ce que ça va faire dans les grandes équipes, alors, on ne sait pas, on verra. Ce que ça va faire dans les petites équipes, que j'espère en tout cas, c'est que ça va leur permettre de faire des choses, de réaliser des visions qu'ils ne pouvaient pas réaliser avant par manque de moyens, quoi.
Ah, c'est certain, on verra. C'est certain, et on le voit émerger. Hein. Il y a déjà des développeurs indépendants qui commencent à explorer l'utilisation de Midjourney et autres IA pour accélérer leur production. Donc clairement, je pense que les indés vont énormément bénéficier.
Quand ça sera intégré à tous les moteurs, les middleware, les outils de développement, les choses vont changer. Merci à tous les deux d'avoir été là pour l'émission. Un mot de la fin et puis je vous laisse partir. Un mot de la fin pour nous dire peut-être où on peut vous retrouver. Je ne sais pas si vous avez une présence sur les réseaux sociaux, un site où vous faites vous présentez vos recherches ou ce genre de choses. Yves, vas-y.
Oui, Alors, on a un compte Twitter sur lequel on peut nous suivre, qui est Ubisoft Laforge, tout simplement. Et on peut aller sur notre site web laforge.ubisoft.com, où on essaye de rajouter assez régulièrement du contenu sur nos dernières avancées. On a également un channel sur YouTube sur lequel on met pas mal de vidéos qui montrent nos différents prototypes.
Super. Écoute, on mettra le lien au moins vers le compte Twitter et je suis sûr qu'on pourra tout retrouver à partir de là. Merci à tous les deux. Merci Alexis. Merci Yves.
Merci Patrick.
Et à la prochaine. Ciao.
À bientôt. À bientôt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.